Caïn et Abel, exactement. Nous allons parler de Caïn et Abel ce matin. Et c'est presque un premier point, c'est le titre du message global, mais vous verrez que ça va évoluer. Donc, une histoire d'offrande. Et ce texte bien connu, nous allons le prendre, donc, il se trouve dans la Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse 4, versets 1 à 16. Je le lirai dans la nouvelle Bible, Bible second. Je vais afficher cette version sur le mur. Et puis pour d'autres, si vous voulez suivre dans vos versions, n'hésitez pas. Donc Genèse 4, versets 1 à 16. L'homme eut des relations avec Ève. Il s'agit de Adam et Ève, juste pour rappel du contexte. Sa femme, elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai produit un homme avec le Seigneur. » Elle mit encore au monde Abel. Son frère Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour la traduction de Matthias. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très fâché, et il fut irrité. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis bien, le péché... Le péché est tapis à ta porte, et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Caïn parla à Abel, son frère, comme ils étaient en pleine campagne. Caïn se jeta sur Abel. Vous voyez plus, hein ? Je vais continuer la lecture quand même. Et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors il reprit, Dieu reprit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop grande pour être prise en charge. » Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, tu ne me verras plus. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Alors si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod. Ce qui veut dire vagabondage, à l'est d'Éden. Cette histoire de Caïn et Abel, comme je l'ai dit, est très connue. Et en même temps, on reste souvent sur cette question du meurtre. Et il y a un meurtre, c'est vrai. Le premier meurtre dans toute l'histoire de l'humanité. Mais ce texte est bien plus que ça. Et il faut dire aussi que c'est le texte qui pose le plus de problèmes aux traducteurs et aux exégètes, c'est-à-dire ceux qui étudient la Bible. Parce qu'il y a sans rentrer dans les détails, il y a des choses aujourd'hui dans les manuscrits qu'on a retrouvés qui ne se ressemblent pas. Et là, la nouvelle Bible second, traduit bien, c'est surtout le verset 7, quand Dieu pose une question, « Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ta tête ?» Dans certaines versions, c'est presque pas une question, c'est une affirmation. Alors que l'hébreu, quand on regarde l'hébreu, c'est clairement le début d'une question. Donc ça ne peut pas être autre chose qu'une question. Mais il y a d'autres endroits où c'est compliqué. Parce que déjà, le texte, on se dit, bon, d'où ils viennent, comment ça se passe, après il va être marié, et puis on a l'impression qu'avec toute cette idée de création, selon la croyance qu'on y met, ça paraît un peu abstrait. Mais finalement, au-delà de ça, on va voir que ce texte n'est pas si abstrait que ça. Et il se dégage justement quelque chose d'extraordinaire pour nous. Dans la pensée courante, l'offrande de Abel serait de loin la meilleure que celle de Caïn. L'offrande de Caïn, donc, serait de loin la moins bonne que celle de son frère Abel. Et donc, conclusion, puisque Abel a donné la meilleure offrande à Dieu, celui-ci va lui donner sa faveur. Et comme Caïn a donné la moins bonne offrande, il n'a pas reçu la faveur de Dieu. Alors c'est intéressant parce que je me suis mis à chercher dans les textes autres, et vous savez que cette histoire, comme d'autres dans l'Ancien Testament, se retrouve dans d'autres religions, notamment l'islam. Hein, on a l'histoire de Caïn et Abel. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de faire ce parallèle, parce que justement, ça nous montre toujours la différence de ce qui est au cœur du message biblique. Et donc, on entend parler dans la sourate 5, chapitre 5, dans les sourates 27 à 31, on entend parler de ce Caïn et Abel, progéniture du premier couple de la création, Adam et Ève. Et je cite juste le texte du Coran sans aller, parce que vous savez qu'ils ont des interprétations, comme nous on en a bien évidemment. Le texte dit juste qu'à un moment donné, suite à une offrande de chacun des frères, ils se sont entretués, il y en a un qui a tué l'autre. Pareil, donc Caïn a tué Abel. Et quelle est la conclusion? Qu'est-ce que dit le Coran par rapport à cette histoire? C'est que si tu tues ton frère, en gros tu tues toute l'humanité. Mais si d'un autre côté tu prends soin de ton frère, alors tu es bon pour l'humanité. Donc on est clairement dans l'œuvre humaine, on met l'accent là-dessus. Et on a l'impression aussi que ça nous laisse entrevoir que l'offrande effectivement de Caïn était moins bonne que celle d'Abel. Après, le texte va beaucoup plus loin, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les interprétations, au niveau des symbolismes, on va trouver bien des choses intéressantes, et on va aller se focaliser sur l'être humain. Et nous allons voir que la parole de Dieu ne se focalise pas sur l'être humain. Bien que ce soit dans un contexte humain dramatique, elle cherche à se focaliser sur Dieu. Et j'espère que c'est Dieu que vous verrez à travers ce texte. Alors revenons dans le contexte. Deux hommes, deux frères, qui chacun, individuellement, a fait ce qui leur semblait juste. Il ne s'agit pas de blâmer Caïn en disant « mais t'as fait n'importe quoi ». Non, pour Caïn, c'était juste. Deux hommes qui ont donné leur bonne offrande. Ils sont tous les deux venus avec leur cœur ouvert, leurs bras ouverts, pour offrir quelque chose à leur Dieu. Ces deux hommes avaient de bonnes raisons d'anticiper pour savoir si leur offrande était acceptée de Dieu. Il n'y avait pas de raison que Dieu ne voulait pas ou ne pouvait pas accepter les offrandes de chacun des deux hommes. Mais bien évidemment, ce n'est pas ce que l'histoire nous raconte. Et le problème, quand on lit le texte, c'est que le problème semble venir de Dieu, pas de Caïn. Le texte nous dit très clairement, verset 4, que Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande, et verset 5, que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. C'est très subtil. En fait, en disant ça, le texte ne dit pas que Dieu approuve d'une part et désapprouve d'autre part, mais que Dieu va porter une attention particulière, si je peux le dire comme ça, à l'un, à l'une des offrandes et pas à l'autre. On pourrait le traduire encore plus simplement, Dieu va prendre en considération l'offrande de Abel, et Abel par la même occasion. Et Dieu n'a pas pris considération de Caïn et de son offrande. Il ne s'agit aucunement de rejet ici. Il s'agit simplement de prendre en considération ce qu'il y a amené. La vie, notre vie semble injuste. Si je vous demandais, est-ce que la vie vous semble juste? Je ne sais pas si j'aurais beaucoup de réponses de oui. Dans beaucoup de nos situations. Mais une remarque par rapport à ça. Parce que là, on est clairement dans une situation humaine d'injustice. Ils sont venus avec un cœur ouvert, chacun. Il est venu avec le fruit de son travail. Et il a été, quelque part, pas pris en considération, alors que son frère a été pris en considération. Sur cette question d'injustice ou de justice, je le dis avec beaucoup de compassion, en fait, Dieu est libre. Dieu est libre. Dieu n'a besoin de personne. Il n'a besoin de rien pour être. Il n'a pas besoin ni de sa création, ni de nous. Il dira de lui-même, « Je suis celui qui est », c'est-à-dire qui était, qui est et qui sera éternellement, même s'il n'avait pas créé toute la terre, même s'il ne nous avait pas créés. Là, tout de suite, on se dit, « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Chut. Mais oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est non seulement je ne suis pas nécessaire ou indispensable à Dieu et que je suis insignifiant, mais à ses yeux, c'est une bonne chose que je sois là. Et c'est une bonne chose que je participe à son plan parce qu'il l'a librement choisi, on l'a entendu dans la louange ce matin, dans son amour. L'amour qui se donne librement de Dieu alors qu'il n'en avait pas besoin. Il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de nous. Et que nous le comprenions ou pas, que nous le croyons ou pas, Dieu est Dieu et il est et fait ce qu'il veut de toute éternité. Ça, c'était pour la parenthèse pour nous. Et Caïn, de la même manière, est au bénéfice de ça. Mais Caïn, la parole nous le dit, de manière littérale, est rouge de colère. Le mot irrité n'est pas assez fort. Il est chaud brûlant. Imaginez-vous une bouillotte. Je ne sais pas, quand il y a quelque chose qui vous prend aux tripes à un moment donné, là, boum, on a envie de taper dans un mur des fois. Hein. Et après, on regrette, bien sûr, parce qu'on s'est fait mal si on tape dans le mur. Taper plutôt dans un parpaing un peu creux, histoire que ça fait quand même une marque, mais on a envie de se défouler. Il y a quelque chose, il y a une pression qui, à un moment donné, qui est là. Et c'est exactement dans cette situation que Caïn est. Et la Bible nous dit, son visage tombe. Quelque part, il se décompose. Il n'est plus le même homme. Hein. Souvent, quand on voit des faits divers, et malheureusement, des gens qui sont passés à l'acte, que ce soit d'un point de vue du suicide personnel ou d'un meurtre ou autre, eh bien, lorsqu'ils plaident non coupables, on dit, mais les psychologues l'attestent, c'était un coup de folie, un coup de sang. C'est pas sa nature habituellement, il a explosé. Et je crois que, peut-être que vous l'avez vécu, dans certaines situations, on peut avoir des coups comme ça forts, et on peut regretter le geste, on peut regretter la parole qui est partie, parce que finalement, c'était un moment clé de notre vie, on n'a pas su se contenir, parce que notre chair nous y a poussé. Mais ce qui est beau à travers de tout ça, c'est que Dieu est toujours dans les parages, au cœur même de cette colère rouge de Caïn. Et il dit aussitôt à Caïn, avec un peu d'humour, bien évidemment, comme Dieu sait le faire, pour nous faire réfléchir. En gros, pourquoi es-tu tout excité, Caïn, hein? Qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi es-tu fâché maintenant? Pourquoi es-tu fâché contre moi? Parce que c'est contre Dieu, finalement. Alors, le texte ne détaille rien, mais on pourrait vraiment imaginer cette scène, au vu de la finalité dramatique de celle-ci, que Caïn est fâché contre Dieu, écrit son injustice ainsi. Mais Dieu, tu plaisantes, j'espère. Tu plaisantes. Je te donne le fruit de la terre, ce fruit que j'ai récolté après des heures de travail, des jours de travail intense à la sueur de mon front. Et nous, nous faisons les choses bien, n'est-ce pas? La parole nous montre que même si on essaye de faire bien, eh bien non, on ne fait pas aux yeux de Dieu les choses bien ou pas assez bien. Alors on a notre humilité et on se dit que je vais essayer de faire de notre mieux. Et pouf! Qu'est-ce qui se passe? Voilà que surgit ce dont je ne m'attendais pas. La perte d'un emploi, le décès d'un proche, le diagnostic d'un cancer ou d'une autre maladie. Un enfant, un ado qui n'écoute pas, qui a de mauvaises fréquentations, qui va même plus loin et consomme de la drogue. Un conjoint qui vous annonce une relation extra-conjugale. Une anxiété chronique qui ne veut pas vous lâcher, et pourtant après des années de christianisme. Ou encore un proche qui petit à petit va oublier sa propre vie, vous oublie parce qu'il est atteint de cette foutue maladie d'Alzheimer. Nous faisons de notre mieux, et tout ce genre de choses nous arrivent quand même. Ou plutôt, j'ai envie de dire, surgissent dans nos vies. Et j'ai envie de dire qu'un... Moi, si je me mets à la place de Caïn, je me dis, tu me demandes, Dieu, pourquoi je suis en colère? Avec ce que je vis, tu me demandes pourquoi je suis en colère? En fait, lorsque Dieu discute avec Caïn, il ne le blâme pas, mais il prend le temps avec lui et il veut le faire réfléchir sur sa réaction du moment. Il ne la rejette pas, sa réaction, mais il veut le faire réfléchir. Comme pour Jonas, par exemple, lorsque Jonas remarque que Dieu est pris de compassion pour le peuple de Ninive qui s'est repenti, il réplique et crie à Dieu dans le dernier chapitre, chapitre 4, verset 4. Le Seigneur répondit, « Fais-tu bien de te fâcher, Jonas ? Hein, parce que Jonas est en train de crier à la justice. Mais c'est pas normal, Seigneur. Maintenant, il se repent. T'as oublié ce qu'ils ont fait avant. Mais que ce soit pour Jonas ou pour Caïn, Dieu est toujours présent dans la scène. Il écoute toujours. Il répond toujours. Et Dieu dit au verset 7, je reprends, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » On peut de manière de, en question, c'est notre version. « Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Paul, dans Romains 6, 12, va le dire autrement, « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses désirs. » Ou alors encore, Jacques, chapitre 1, verset 1, 5, « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, en effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « C'est Dieu qui me met à l'épreuve. » Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal. Et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis, le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché. Et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. La question que Dieu pose au fond, son creux, c'est « Quelles ont été tes intentions, Caïn ? Quelles sont tes vraies motivations envers moi à travers cette offrande ?» Selon l'interprétation la plus courante dans le judaïsme du 1er siècle, Caïn, justement, représente cette figure de celui qui est révolté, le révolté contre Dieu. Et Dieu nous questionne en quelque sorte lorsque, face à ma difficulté, à nos épreuves, à l'échec, on réagit de telle ou telle manière. Si ça vous va bien, ce qui va se passer après cette réaction, allez-y. Mais si vous considérez que ça ne va pas bien, ça n'ira pas bien à mes yeux, alors faites bien attention. Parce qu'il est facile de se perdre dans la vie, surtout quand les choses se compliquent. Mais voici le problème de Caïn. Quelque part, Jésus lui dit « Tu peux faire cela ». Notre question, c'est comment je réponds à la vie, au sens de la vie, au sens du plan de Dieu pour l'humanité et donc dans lequel je suis. Comment je vais considérer ce que Dieu nous dit dans sa parole? C'est à chacun de nous d'y répondre. Et ici, dans notre texte, Caïn, lui, au lieu d'y réfléchir, il va persister et il s'entête. Et le verset 9 nous le prouve parce qu'il ira jusqu'à donner rendez-vous à son frère, dans certaines traductions, et littéralement c'est ça. Il ne le croise pas dans un coin d'une rue, il lui donne clairement rendez-vous, c'est prémédité. Il donne rendez-vous à son frère dans les champs pour se venger de lui et le tuer. Dans la première lettre de Jean, 1 Jean 3,12, voilà ce que nous lisons. « Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du mauvais et qui tua son frère. » Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ah, nous y voilà. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que son offrande n'était pas bonne et pas belle et que ce n'était pas certainement un fruit extraordinaire de son travail de la terre. Mais on parle encore une fois de qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu. Le souci n'est pas le favoritisme que Dieu fait entre l'un des deux frères. Mais il faut comprendre que c'est Caïn qui fait ce qu'il veut, ce qu'il pensait lui-même être bon pour Dieu, pas ce que Dieu avait demandé. Dans Exode, et c'est là que nous parlons de cette histoire de sacrifice, dans ce texte, dans Exode 13, 12, on peut lire ce qu'on appelle les ordres envers les premiers-nés d'Israël. Et dans le verset 12, nous lisons « Tu feras passer pour le Seigneur tout enfant né le premier de sa mère, ainsi que toute première portée de tes bêtes, les mâles appartiennent au Seigneur. » Tu feras passer, c'est cette expression qui est utilisée dans de nombreux autres textes de l'Ancien Testament qui nous donne ce sens sacrificiel, ce sens du sacrifice. Hein ? Hébreux 11, 4 rajoute « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Hein, » vous voyez là finalement la subtilité entre l'offrande et le sacrifice. « Un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. » Par elle, quoique mort, il parle encore. Et c'est là que la grande histoire que nous trouvons dans ce texte, c'est une histoire de pardon. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre ici que la raison principale pour que Dieu tienne en considération l'offrande de Abel et pas de Caïn, c'est parce qu'il attendait un type d'offrande bien particulier. Et donc les deux frères devaient être au courant. Ah, pourquoi ? On peut se dire, oui, mais les textes bibliques ont été écrits bien après la loi de Moïse. C'est vrai. Mais est-ce que Dieu, pendant ce temps, il n'a rien fait ? Il n'a pas alerté ou prévenu ou éduqué ceux qui étaient avant ? Ce ne serait pas juste. Hein ? Et c'est là qu'on revient dans le chapitre 3, verset 21, voilà ce que nous pouvons lire. Après que Adam et Ève sont chassés du jardin, « Le Seigneur Dieu fit à l'homme et sa femme des habits de peau, donc dont il les revêtit. » On peut traduire aussi une tunique, hein, il va les habiller. Juste après où Dieu va leur annoncer qu'ils vont être chassés du jardin d'Éden et les conséquences sur leur vie personnelle et leur péché, il va les couvrir par des vêtements de peau. Dieu lui-même qui leur accorde le premier geste de miséricorde. Dieu va recouvrir la nudité de l'autre, va jeter de sur lui un voile ou un vêtement, c'est-à-dire il ne le juge pas, mais il va faire taire cette nudité, il va faire taire cette honte, il va masquer, il va cacher le péché. D'une certaine manière, il va se substituer à ça. Donc finalement, au-delà du meurtre humain, la première créature à mourir dans l'histoire biblique, c'est pas l'homme, mais c'est un animal. C'est ni l'homme, ni sa femme. Et c'est vraiment une ombre de la réalité à venir. Dieu va tuer un substitut, quelqu'un qui prendra la place et qui fera justice de ce péché originel, quelqu'un d'autre, dans le but de racheter les pécheurs. Et la mort de cet animal, dans Genèse 3:21, nous montre clairement que c'est Dieu, dès cet instant, qui a décrété le sacrifice pour le pardon des péchés. Et c'est ce que l'on comprend mieux, bien évidemment, que Caïn n'a pas donné l'offrande attendue en guise d'un sacrifice que Dieu attendait. Il va faire une offrande végétale, une offrande de la terre, pas d'un animal premier-né. Parce que des fois, on pourrait se dire aussi, oui, l'animal premier-né, c'est les prémices, c'est super, Dieu agrée, parce que dès que je reçois mon argent, je donne tout de suite mes 10%. Ok, c'est super, vous pouvez le faire et vous êtes encouragé à le faire. Mais si vous le faites de cette manière-là, alors Dieu ne va pas l'agréer parce qu'elle ne viendra pas du cœur. C'est toute ça la subtilité. Vous pouvez prendre, il aurait pu prendre la première de ses bêtes, la meilleure, la centage, etc. à ses yeux. Mais en fait, si le cœur n'était pas là, ça ne servirait pas à grand-chose. C'était la même chose que ce que son frère Caïn a fait avec son offrande végétale. Mais Caïn, lui, ne veut toujours pas comprendre. Il continue de venir devant Dieu avec son amertume, son cœur endurci. Et pourtant, là aussi, Dieu continue de lui dire, « Caïn, je ne vais pas te laisser partir si facilement. » Verset 10, nous avons vu, « Qu'as-tu fait, Caïn ? Où est ton frère ?»« Comment ça, Dieu ?» dit Caïn. « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est un ton ironique pour Abel qui était, je rappelle, un berger gardien du troupeau. En gros, il garde des moutons, il ne peut pas se garder tout seul. C'est un peu ça, quoi. Dieu rajoute, « Caïn, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Il montre, il va vers Caïn et lui dit, « Je suis au courant de ce qui se passe. En fait, ne me cache rien, je le sais, tu as juste à me le dire, j'attends ça. » Qu'est-ce que fait Caïn ? On me dit, « Oui, Seigneur, c'est vrai. » « Mais ma faute est trop grande pour être prise en charge. Je serai caché, tu ne me verras plus. » C'est vraiment aussi ironique. « Ah, tu ne me verras plus, et puis tu vas me tuer, et puis voilà. Hein, tu es le juge. » Qu'est-ce que va dire Dieu ? Et pourtant, il pourrait le tuer. Dieu dit, « Si on te tue, Caïn, sache qu'on te vengera cette fois. J'ai placé ma marque sur toi. En quelque sorte, tu es à moi. Quoi que tu fasses, même si tu restes révolté, même si tu es rebelle, mais parce que tu as choisi ta part, parce que tu n'as pas placé ta confiance en moi, alors tu auras la vie vagabonde que tu as choisie. Mais sache que tu m'appartiens. » C'est assez intéressant parce que souvent on entend des fois des témoignages, on dit « J'ai vendu mon âme au diable. » Mais en fait, notre âme, il ne nous appartient pas. Et il ne pourra jamais être vendu au diable parce que l'âme, qu'il soit sauvée ou déchue, qu'on aille en enfer ou au paradis, il appartient à Dieu. Toute chose appartient à Dieu. Il faut clairement le rappeler, il n'y a rien qui appartient au diable. Ce sont que des mensonges. Dieu a tout, la souveraineté sur toute chose. Même si malheureusement, certaines personnes, à l'image de Caïn, vont refuser cette souveraineté et cette grâce inlassable que Dieu nous fait. Alors pour terminer, j'aimerais vraiment qu'on puisse rapidement voir un petit peu, lorsqu'on fait l'exégèse de ce texte, et comment on voit la progression entre Adam et Ève, et Caïn et Abel. Donc Mathieu Richel, qui est un spécialiste en exégèse de l'Ancien Testament, nous invite à réfléchir sur le contexte large. Ça veut dire qu'on regarde avant le texte et après. Donc quand vous lisez votre Bible, des fois je vous invite à ne pas regarder que au verset clé, mais essayez de fouiller un petit peu avant et je vous assure que vous allez trouver des richesses. Il y a des concordances dans vos Bibles, il y a des commentaires. Genèse 3, voyons un petit peu les similitudes. Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Donc il appelle Adam. De l'autre côté, Genèse 4, Dieu dit à Caïn « Où est ton frère Abel ?» Ensuite, Genèse 3, « Qu'as-tu fait ?» Il demande aussi à Caïn « Qu'as-tu fait ?» Donc on parle à Adam en Genèse 3 et Dieu parle à Caïn de son fils en Genèse 4. On revient sur Adam, ton élan se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Donc ça, c'est par rapport à elle. Et puis, Genèse 4, son élan se porte vers toi, mais toi, domine-le. On revient en Genèse 3, cette terre sera maudite à cause de toi. Et voilà la conséquence plus tard. Tu es maudit hors de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Genèse 3, c'est dans la peine que tu en mangeras, c'est-à-dire le fruit de la terre. Et enfin, quand tu travailleras la terre, elle ne te donnera plus sa force. On trouve encore ça. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 4, tu seras vagabond, errant sur la terre. Genèse 3, les deux similitudes qui restent, ce sont les seules. Bienveillance de Dieu, à l'image des tuniques, verset 21. Genèse 4, bienveillance de Dieu, avec la marque qui est posée sur le signe, qui est posée sur Caïn. Dieu chasse l'homme et l'installe à l'orient du jardin d'Éden. Et Caïn sort de devant Dieu et habite au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Donc vous voyez une progression, c'est assez intéressant. Et on voit que le péché, le premier péché originel de Adam et Ève, finalement, va amener à une conséquence encore bien plus désastreuse, à l'image de Caïn et Abel. Ce qu'on trouve encore intéressant, c'est qu'Adam, lui, face à Dieu, il est resté silencieux. Il est resté quand même silencieux. Comme un peu une certaine manière de dire « Ouais, je reconnais ma faute ». Mais Caïn, lui, à l'inverse, il va commencer à se révolter et il va en vouloir à Dieu, etc. En somme, si on le sort comme ça, le récit de Caïn et Abel n'est que l'histoire d'un drame particulier, mais si on le tient compte de ce contexte, il apparaît comme la continuation de la faute de Genèse 3 et il va s'aggraver par rapport à Genèse 3 dans la faute comme dans les conséquences. Tout ça pour vous montrer aujourd'hui qu'il y a bien cette réalité. Elle est présente encore aujourd'hui. Et cette histoire de Caïn fait fortement écho dans le Nouveau Testament, peut-être avec l'histoire du pharisien et du péager. L'un se revendique devant Dieu qu'il est pieux et il le remercie même qu'il n'est pas comme les autres, comme les autres communs des mortels. Et le péager, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne et il s'humilie devant Dieu en demandant pardon, simplement parce qu'il ne mérite rien, qu'il est pécheur et qu'il n'arrive même pas avec ses propres forces à essayer de glorifier son nom. Alors pour conclure, j'aimerais vous laisser un texte de l'Ancien Testament, mais qui est beau et qui ramène cette question de l'offrande encore une fois. C'est David, dans le premier livre des Chroniques, qui justement nous rappelle, lorsqu'ils ont reconstruit le temple, un élan de générosité, où David lui-même a donné énormément de richesses pour la construction de ce temple. Il a encouragé le peuple d'Israël à faire de même. Et voilà, à ce moment-là, comment on vivait la situation. David bénit le Seigneur en présence de toute l'assemblée. David dit, « Béni sois-tu depuis toujours et pour toujours, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père. À toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » À toi, Seigneur, le règne, à toi de t'élever souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qui a le pouvoir de rendre. Et c'est ta main, pardon, qui a le pouvoir de rendre grand et fort. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons ton nom splendide. Qui suis-je donc ? Et qui est mon peuple pour que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi. Et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi des immigrés, des résidents temporaires. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Et il n'y a pas d'espérance. Seigneur notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance que nous avons préparée afin de bâtir une maison pour toi, pour ton nom sacré. Tout appartient, je sais bien, mon Dieu, et tu sondes le cœur et que tu agrées la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit. Et je vois maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici te faire des offrandes volontaires. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde pour toujours cette forme de pensée dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour toi. On va prendre un temps de silence, un temps de prière. Et la question pour nous ce matin, c'est comment va ton cœur ? Comment est disposé ton cœur face à l'attente du Seigneur ? Au cœur de ce drame, finalement, je me dis, mais qu'est-ce que c'est déculpabilisant, ce que Dieu attend de moi, en fait ? Parce qu'il n'attend pas grand-chose, si ce n'est qu'un cœur droit, un cœur sincère, un cœur pas parfait, mais authentique. Seigneur, tu me connais. Je suis comme je suis, et merci que dans ta grâce, tu m'acceptes de cette manière-là. Et que bien plus, parce que tu m'aimes, tu veux m'aider à cheminer avec toi et à me laisser transformer. De quelle manière, dans quelle attitude de cœur viens-tu vers le Seigneur ce matin ? Avec quelle attention tu as apporté ton offrande ce matin ? Alors peut-être que c'était peut-être pas la bonne attention quand je parle des offrandes de tout à l'heure, si on les matérialise de cette manière-là, pour certains. Mais là aussi, comme avec Caïn, Dieu discute, Dieu écoute, Dieu ne s'en va pas, Dieu est présent, il ne te rejette pas. Et il te laisse encore l'occasion de dire oui Seigneur. Peut-être que je l'ai fait par habitude, parce que je sais que pour moi, la fête de reconnaissance, c'est important. Oui, c'est important. Mais je suis plus important que la fête de reconnaissance. Je suis plus important que même mon église dans laquelle tu es. Parce que c'est moi qui fais toutes choses. Cette histoire qui, finalement, annonce le premier meurtre de l'humanité, nous parle de pardon. Dieu reste présent et inlassablement, de et par l'œuvre du Christ, nous offre le pardon une fois pour toutes. Et il cherchera par tous les moyens le temps qu'il faudra pour nous attirer à lui, afin que nous soyons au bénéfice de sa grâce et de son pardon. Seigneur, comme pour Caïn, tu nous dis ce matin, où es-tu ? Où es-tu dans ta relation avec moi ? Que fais-tu pour alimenter, pour chercher cette relation avec moi? Ou encore, qu'as-tu fait pour que celle-ci soit si loin, au point que tu as l'impression qu'il n'y a aucune possibilité de retour? Mais Seigneur, dans ta grâce, tu nous as revêtus, comme Paul le dit, nous sommes revêtus de Christ. Comme ces vêtements de peau que tu as donné à Adam et Ève, comme ce signe que Dieu a donné à Caïn. Certes, Caïn est allé dans sa révolte, comme on pourrait le voir avec Judas, alors que Jésus lui tendait la main, « Va faire ce que tu as à faire et reviens. » L'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont choisi de ne jamais revenir au pied de Jésus, au pied de leur Dieu. Alors Seigneur, nous voulons ne pas être sourds à ton appel. Et peu importe la proximité que nous avons avec toi, nous voulons plus de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons encore chanter. J'invite les musiciens à nous rejoindre, les chanteurs. Bénis Dieu, ô mon âme.